C'est vrai que je me concentre sur le côté technique, mais pourquoi je le fais aussi, c'est pour que vous puissiez, vous, en tant que téléspectateur ou spectateur, revivre cette émotion que j'ai eue. Parce que si j'ai bien filmé, j'ai bien même fixé ma caméra, j'ai bien fait mon point sur l'œil de la baleine, du cachalot ou de la tortue, donc ce regard-là, toi, à l'image, ma caméra devient un peu ton subjectif. Donc du coup, c'est toi qui prends un peu ma place. Et si tu captes l'émotion que j'ai eue, même en différé, c'est que j'ai gagné.
Bonjour, c'est Anne B. Tu es sur Storylific. Ta mission ce jour ? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Tous les 15 jours, retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur storylific.com. Est-ce que tu es fan des making-of ? Si c'est le cas, tu vas te régaler car je vais te faire plonger du nord au sud de la planète avec un caméraman hors norme, référence dans son domaine, René Euset. Il tourne pour l'émission Thalassa depuis plus de 30 ans. Il a été directeur de la photographie sous-marine pour le film Océan de Jacques Perrin et Jacques Clujot, entre bien d'autres tournages, puisqu'il en compte plus de 2000 au compteur. Dire que j'ai adoré enregistrer cet épisode avec René, c'est bien en dessous de la vérité. Imagine-toi te réveiller et découvrir dans ta boîte mail un message « Je viens d'enregistrer des baleines à bosse, ça t'intéresse ?» Alors le chant du coq au lever, c'est pas mal, mais celui bien plus mélodieux des baleines à bosse, je t'assure que c'est mille fois mieux. Merci pour tous ces partages, René. Cette discussion a été enregistrée d'un bout à l'autre de la planète. Départ immédiat pour des eaux turquoises. En plein mois de novembre, ça fait du bien. Bonjour René Euset.
Bonjour Anne B.
Aujourd'hui, on enregistre dans un cadre idyllique, pour toi en tout cas, parce que nous, c'est la Belgique à la Toussaint, c'est pas génial. Et toi, où te trouves-tu ?
Ah ben moi, je suis de l'autre côté de la planète, je suis en Polynésie française, sur l'île de Moréa exactement.
Ça au moins, ça fait beaucoup plus rêver, et ce que tu y fais encore plus rêver.
Effectivement, depuis le 10 septembre, je suis sur les îles pour deux raisons. Une pour préparer un tournage sur les baleines à bosse, et deuxièmement avec mon association Un océan de vie pour les observer et faire des comptes rendus sur les baleines à bosse qui viennent chaque année mettre bas autour des îles de la Polynésie.
Ouais, magnifique, bah, on aura l'occasion d'en reparler plus loin, mais vous avez déjà eu des naissances là ?
Oui, chaque année il y a des naissances. La plus fraîche qu'on a eue remonte à la semaine dernière, on est tombé sur un bébé qui avait seulement quelques jours.
Formidable, t'as des belles images alors ?
Oui, les images, c'est un peu plus compliqué à tourner parce qu'il faut pas trop les déranger. Et puis, en ce moment, on a pas mal d'orages aussi. Donc, on jongle, on part à 8h du matin, on rentre à 5h du soir. Mais l'attente est souvent récompensée et c'est merveilleux pour tout le monde, quoi.
Donc, toi, en fait, tu es arrivé dans le bain un peu, enfin, pas par hasard, mais plus tardivement parce que tu avais commencé tout autrement. Tu as été chauffeur routier comme ton papa, en fait, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait routier pendant plus de 25 ans. Donc, dès que je suis sorti de l'école de routier, ben, je suis parti à l'armée. De l'armée, j'ai fait 10 ans de conduite, hein, avec des gros camions. Mais du coup, la route ne me plaisait plus. De la route, je suis passé à la mer, qui était ma passion et dans laquelle j'en ai fait mon métier.
Oui, tu m'avais dit que ça avait aussi commencé à la naissance de ta fille, le fait de vouloir filmer.
Ben, tout à fait, parce que moi, j'ai pratiquement pas de photos de l'époque, ou en tout cas pas de films. Et lorsque ma fille est née en 1987, j'ai eu l'idée de me dire que je voudrais filmer ma fille de sa naissance jusqu'à son mariage. Et je savais pertinemment que je pouvais pas la filmer tous les jours aussi. Bon, j'ai investi dans du matériel. Et là, justement, la vidéo venait de débarquer sous l'eau et j'étais un des pionniers à tourner en vidéo sous-marine. Et c'est là que j'ai fait quelques films parce que je suis de Marseille et à l'époque, dans les années 80, on disait que la Méditerranée était morte, était polluée et j'ai l'impression de ne pas plonger dans la même mer. Alors j'en ai fait un peu mon cheval de bataille, j'ai voulu montrer aux gens que non seulement la mer Méditerranée n'est pas morte, mais encore de très belles choses. Et puis ensuite, eh bien, on le voit un peu partout, sur tous les océans que je parcours depuis 35 ans.
Et une de tes premières grandes émissions, ça a été Thalassa, c'est ça ?
Oui. Ah ben oui, j'ai commencé Thalassa dans les années 90. Ça s'est fait un petit peu par hasard parce que je travaillais un petit peu pour la Comex. Et justement, l'émission de Thalassa voulait faire une émission en direct depuis un sous-marin qui s'appelait le Cibus. Le président de l'Oz avait fabriqué un sous-marin dans lequel il pouvait prendre 42 personnes et les immerger jusqu'à 100 mètres de profondeur. Et on avait fait un direct depuis Monaco, le port de Monaco. Et c'est là, à l'issue de ce direct, que l'équipe de Thalassa était contente de mes services. Ils m'ont refait travailler et depuis 35 ans, je suis toujours présent avec eux. Et pour moi, c'est un très grand honneur de continuer à travailler pour des gens formidables comme eux.
35 ans avec Thalassa, ouais, ça commence à solidement compter. C'est une émission qui existe depuis combien de temps?
Oui, ça compte. Eh bien, maintenant, je crois qu'elle a 44 ans, 45 ans. J'ai eu la chance de faire plonger mon ami regretté Georges Pernoud pour les 20 ans de Thalassa, et ensuite on a réitéré ça pour les 40 ans. Et donc, pour moi, ce sont des souvenirs inoubliables parce que ce grand monsieur m'a permis d'apprendre beaucoup sur mon métier et j'en serai éternellement reconnaissant.
Ouais. Quel a été un de ces conseils? Ou c'est le fait de te donner l'occasion de le faire, ou il avait des phrases qui t'ont marqué quand il parlait du tournage?
Lui, au début, ce qu'il me disait, filmer des requins, filmer des baleines, filmer des tortues, c'est sympa, mais ça l'intéressait pas. Lui, ce qu'il était, toutes les émissions sont fondées sur des histoires humaines, des aventures humaines, que ce soit des professionnels, des amateurs. Donc, il me disait, ce que je veux, c'est qu'on raconte quelque chose. Et l'image, pour moi, je me souviendrai toujours ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, je préfère avoir une belle histoire mal filmée qu'un bon film mal raconté.
On va parler un peu de plongée, hein, puisque tu es au-delà des. Tu les comptes encore tes tournages, au fait, parce que j'ai vu que tu étais au-delà de 2000, ou tu as arrêté de compter depuis longtemps?
J'ai arrêté de compter depuis longtemps parce que au début, comme tout passionné, on les marque sur ses carnets de plongée, ensuite sur ses
Ouais.
cahiers, sur ses classeurs. Et là, je dis non, j'arrête parce que sinon, je pourrais pas toutes les nommer parce que il y en a tellement, il y a tellement de beaux souvenirs, il y aurait de quoi écrire un film là-dessus, quoi.
C'est peut-être une idée d'ailleurs. Quelle est la qualité première d'un caméraman sous-marin?
Il faut avant tout qu'il soit un bon plongeur. Voilà. S'il n'est pas bon plongeur, sur Terre, il peut être le meilleur des caméramans, mais s'il n'est pas très aquatique, il n'arrivera pas à sortir de belles images. Pourquoi? Parce qu'on est dans un milieu qui est réputé être hostile, c'est-à-dire on part avec des bouteilles pour respirer sous l'eau, donc c'est-à-dire qu'on part pour une durée limitée, et ensuite on a des problèmes de pression qui sont liés à la pression, de la saturation, et puis aussi il y a le froid, il y a les courants, il y a beaucoup de paramètres qui sont différents sur les tournages extérieurs. Et ensuite, je pense qu'il faut être très très patient parce que l'animalier ne se maîtrise pas comme une fiction, c'est-à-dire un comédien, on peut lui demander de refaire X fois la scène, tandis qu'un animal, si t'étais pas prêt, tu peux pas lui dire, s'il te plaît, tu peux pas recommencer. Donc on est obligé de s'adapter à la nature pour justement la retransmettre dans sa valeur réelle, quoi.
Une journée type de tournage, on va dire, avec les cachalots, comment ça se passe? Ou avec les baleines à bosse, c'est peut-être assez similaire. Je veux dire, après, on parlera d'un tournage sous-marin comme tu en as fait dans les eaux glacées. Ça doit être très différent. Donc voilà, pour que tu nous donnes d'abord dans les eaux un peu plus chaudes, comment ça se passe?
Chaque tournage est différent, même sur le même sujet. Pendant 10 ans, j'ai filmé les cachalots de l'île Maurice. Je peux pas dire que j'ai fait deux fois les mêmes séquences parce que chaque prise de vue, chaque mise à l'eau est totalement différente parce qu'on tombe sur un animal différent, le comportement est différent, la luminosité est différente, tout change et il faut s'adapter très très rapidement parce que, comme je disais tout à l'heure, l'animal, on a droit à une prise unique et il faut pas la
Pour la
rater.
lumière, tu peux faire n'importe quand, ou il faut attendre vraiment qu'elle soit plus vers les heures de midi où elle pénètre mieux, ou...
Moi, je préfère tourner le matin lorsque le soleil est levé jusqu'à 14-15 heures, mais quand il y a du soleil. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement sur Terre, on n'a pas la panelle de couleurs que l'on a sous l'eau. Ce qu'il faut savoir, à partir de 10 mètres, on perd le rouge, ensuite on perd le jaune, et à 30-40 mètres, tout est bleu. Et donc, si en plus on est nuageux, le bleu devient très vite gris, et on se retrouve un petit peu en monochrome et qui ne va pas. Et moi, en ce moment, j'ai des petits soucis avec les baleines en Polynésie. On a beaucoup d'orages. Ben, je passe 2-3 jours sur le bateau en espérant un petit éclair, un petit soleil qui passe, et malheureusement, ben, ça n'arrive pas. Ben, les baleines sont là, je me mets pas à l'eau parce que je sais que l'image ne sera pas bonne, quoi. Donc j'attends le beau moment. C'est-à-dire, je suis à la merci de la nature et de la météo.
Oui, encore beaucoup plus que sur Terre, ouais. Ça, c'est intéressant. Et plutôt plongée bouteille classique, plutôt recycleur, plutôt quoi?
Ben, ça dépend des situations, ça dépend des espèces. Les cachalots, j'ai pas besoin de plonger en recycleur parce que ils me connaissent, je les connais depuis 10 ans, il y en a qui me reconnaissent, qui viennent me voir, donc j'ai mon petit système. Je prends le recycleur lorsque je veux faire des gros plans, lorsqu'ils dorment pour pas les déranger. Par contre, avec les baleines à bosse, eh ben, j'utilise beaucoup plus souvent le recycleur parce que pour eux, le fait de faire des bulles est un peu un signe d'agression chez les baleines.
Oui.
Soit ils s'en servent un petit peu lorsqu'ils veulent faire des prédations, ils encerclent, ils font des rideaux de bulles pour encercler des bancs de poissons, soit entre elles, lorsqu'elles sont mécontentes, elles lâchent des bulles pour montrer leur un petit peu leur mécontentement, quoi.
Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, donc les bulles, ça fait un peu comme des murs. Les poissons ne comprennent pas bien qu'ils peuvent les traverser. Et donc, ça les. C'est pour ça, c'est ça? Ça les bloque un petit peu quelque part. C'est pas facile de bloquer sous la mer, mais.
Oui, tout à fait. Les poissons ne réagissent pas comme nous. Donc, les poissons suivent des instincts. Donc, ils ont un petit peu un leader. Et d'avoir un rideau de bulles, c'est un petit peu comme un barrage. En fait, il suffirait de passer au travers et ça irait, mais ils ne sont pas programmés pour ça. Donc, c'est comme ça que les prédations se font avec les baleines. Lorsqu'elles font ces gros rideaux de bulles, ben, les poissons sont bloqués. C'est comme le sardine run. Lorsqu'il y a des boules de sardines, les bandes de dauphins séparent des milliers de sardines du groupe. Ensuite, ben, lorsqu'elles ont perdu le groupe, elles sont perdues, elles tournent en rond. Et c'est là où le plus gros garde-manger du monde arrive avec les dauphins, les requins, les baleines qui finissent toutes les sardines qui se trouvent en Afrique du
Oui,
Sud.
ça c'est des très belles scènes qui sont dans le film Océan aussi. On en parlera. Si tu devais me décrire ton métier en 15 secondes, qu'est-ce que tu mettrais en avant, René?
Ben, ce que je mettrai en avant, c'est, ben, je pense que c'est un métier qu'il faut faire par passion. Il faut être amoureux de la nature. Il faut être patient. Et surtout, il faut vraiment être compétent dans ce métier-là parce que il est à la fois fabuleux, mais il est aussi très dangereux. Voilà. Donc, il faut se maîtriser, il faut maîtriser sa peur et il faut garder ce que j'appelle son self-control.
Ouais, je suppose que tu fais aussi référence à des rencontres comme tu as eues avec l'ours blanc ou avec les requins, et ça, c'est clair qu'on va en parler parce que c'est de belles histoires. Techniquement, ça se passe comment? C'est quoi les grandes différences avec un tournage terrestre? Il y en a plein, mais il y a certainement des choses auxquelles nous, on ne pense pas, les choses qui sont vraiment inattendues.
D'accord. De toute façon, nous, les caméras qu'on embarque sous l'eau, ce sont des caméras terrestres. Et on les met dans des boîtiers étanches pour que justement, ils ne puissent pas prendre l'eau. Et on fait ce qu'on appelle, on met des reports de commande, c'est-à-dire ce sont des boutons qui nous permettent d'actionner tous les boutons de la caméra depuis
Depuis le
l'extérieur.
boîtier.
Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle un caisson sous-marin. Ces caissons sous-marins, moi, les miens, ils sont faits pour résister à une pression de 100, de ça à 150 mètres. Et donc, ce qui fait que c'est des pressions qui sont très très fortes. Et pour descendre aussi à 150 mètres, eh bien, il faut qu'on ait un équipement de plongée qui nous permette de résister longtemps. Pour un exemple, moi je sais quand je plonge à 100 mètres, pour 15 à 20 minutes de plongée, je fais plus de 2 heures et demie de décompression. Voilà. Et pour ça, ben, on utilise des recycleurs ou on a des plongeurs qui nous apportent de l'air pour faire nos paliers de décompression. Et ça, ben, c'est un travail d'équipe parce que plus on veut plonger profond, plus il faut être bien encadré parce que la moindre erreur ne pardonne pas. Voilà. Alors, ensuite, au niveau des caméras, maintenant on travaille tous en caméra ultra haute définition. Là, moi, je travaille des caméras maintenant en 8K. Donc, chaque fois, ben, on suit l'évolution du marché terrestre et on l'applique en sous-marin avec les spécificités sous-marines, sachant que les profondeurs de champ sont différentes, les lumières sont différentes, parce que, si tu as un exemple, si tu veux mettre un éclairage à 1200 watts HMI sur Terre, il ne va pas du tout donner la même luminance que sous l'eau. Donc, sous l'eau, si on prend le même éclairage, il va éclairer à 5-6 mètres et que sur Terre, il va éclairer à 10-15 mètres. Parce que c'est la réflexion de l'eau qui nous pénalise sur la qualité, la définition de l'image qu'on veut obtenir. Et au niveau du son, moi j'ai des micros, ce qu'on appelle de type piezoïctal. Ce sont des micros extérieurs qui enregistrent parfaitement le son sous-marin, Il faut savoir que le son sous-marin se propage à 1500 mètres secondes contre 330 mètres secondes sur Terre. Donc le son va trois fois plus vite sous l'eau et on s'entend de beaucoup plus loin.
Oui, ça c'est toutes des choses, ça s'apprend de tenir compte de ça. Je crois que tu organises des stages d'ailleurs.
C'est ça, je fais des stages de formation de prise de vue sous-marine, hein. Je le fais pour les professionnels et aussi pour le grand public, parce que maintenant les vidéos de qualité se sont démocratisées, on a de très très belles caméras ou appareils photo qui font de très belles images avec un prix très très compétitif, et ça suscite l'engouement naturellement des plongeurs. Et donc j'apprends à ces personnes-là à travailler dans les règles de l'art et surtout en sécurité et en respect de la nature, parce que aucune image ne vaut la vie d'un plongeur et il ne faut surtout pas détruire les coraux ou tuer des animaux pour se faire plaisir sur une image. Voilà, ça c'est mes règles priorités sur mes formations, respect de la nature et règles de sécurité.
Ça a dû être passionnant aussi de suivre toutes les évolutions techniques qui se sont vraiment accélérées. Pour toi, dans ton métier, quand tu as commencé, c'était avec quoi alors, techniquement ?
Ben moi, j'étais un des premiers en 1986 à travailler sur les caméras vidéo. Parce qu'à l'époque, il y avait encore les films du commandant Cousteau, et qui travaillaient en pellicule, c'est-à-dire en caméra 16 mm ou en 35. Et puis, il y a pour moi le déclic qui a été le film de Luc Besson, Le Grand Bleu, qui a donné un engouement sur la prise de vue sous-marine et sur les films sous-marins à venir. Et pour moi, ça a été un film culte. Mais à l'époque, ils travaillaient en pellicule, c'est-à-dire qu'ils avaient une autonomie de 4-5 minutes de bande d'enregistrement.
C'est affolant.
Ah ben, il fallait faire très très attention. C'est comme quand on a des appareils photo, on a 36 poses, ben, il fallait faire attention à bande déclenchée.
Oui, oui.
Quoi. Voilà. Et puis quand en 2004, l'équipe de Jacques Perrin et Jacques Luzeau m'ont appelé pour faire le film Océan, ce sont des hommes de cinéma, il a fallu les convaincre d'arriver à, si on voulait obtenir, donner le résultat qu'ils souhaitaient, on ne pouvait pas tourner en caméra film, mais il fallait tourner en caméra vidéo. Or que les caméras vidéo étaient faites à l'origine pour la télévision, et Jacques Perrin me disait toujours, moi je veux pas une image de télévision, je veux une image de cinéma. Et donc grâce à mon ami Philippe Ross, qui est un ingénieur de l'opération de la vision, donc on a passé une semaine à régler les caméras de manière à ce que la vidéo ressemble à la pellicule. Et le challenge a été réussi parce que dans le film Océan, on a très bien marié la caméra pellicule et que les caméras en...
Ah oui, c'était toujours la pellicule pour ce qui était plan hors... enfin...
Voilà, tout ce qui était en extérieur a été tourné en 35 mm, en super 35, c'est les plans aériens et les plans extérieurs. Et sous l'eau, 95% des images ont été tournées en vidéo.
Je me suis régalée en préparant ici l'interview. J'ai été revoir tous des making-of justement du film Océan, dont je suis du coup encore beaucoup plus bleue qu'avant. Et c'est affolant la machinerie que vous avez des espèces de grues, des leviers énormes pour descendre au niveau des dauphins, là je voyais des choses qui partent des embarcations pour vraiment avoir un bras qui est assez près de l'eau. Vous aviez aussi inventé quelque part l'ancêtre du drone, non?
Exactement, on a inventé l'ancêtre du drone en faisant fabriquer un petit hélicoptère et en désossant complètement une caméra 35 mm pour l'alléger, hein, on avait une autonomie de 10 minutes et on voulait s'approcher au plus près des animaux, et avec un hélicoptère, c'était pas possible. Donc on a eu l'enceinte du drone, on a eu l'enceinte aussi des têtes stabilisées des ronins, parce que la grosse grue que vous voyez, c'était pour justement, quelle que soit la situation de la mer ou l'agitation, l'horizon était toujours net. Maintenant, on a le même résultat avec une machine qui pèse 10-15 kilos à tout casser. Qu'avant, c'était une grosse machinerie qui faisait plus de 50-60 kilos. Et c'est grâce à ces machines-là que le progrès s'est développé, s'est miniaturisé, et la qualité ne s'en est que mieux ressortie.
Oui, c'est super intéressant. Je mettrai quelques liens sur la page de l'épisode pour pouvoir aller voir ces extraits des making-of. C'est vraiment super intéressant. Enfin, moi, j'ai adoré. Pour toi, quelle serait la définition d'un documentaire réussi?
Ben, un documentaire réussi, c'est pour moi un documentaire qui est filmé simplement, c'est-à-dire au plus près de la réalité des choses. Voilà. Sinon, on bascule tout de suite dans la fiction. Et filmer les animaux dans leur état originel, dans leur comportement originel, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'attente, beaucoup de patience. Donc, c'était la force du film Océan, parce que Jacques ne voulait absolument pas tourner dans des aquariums ou autres. Il nous a donné le temps de travailler dans le milieu naturel, c'est-à-dire ce sont nous qui sommes allés voir les animaux et nous les avons pas imprégnés. Et donc ça, c'était vraiment un challenge là-dessus.
Oui. Oui, c'est vrai que je l'écoutais hier et il disait qu'il y a énormément d'attente quand on filme la nature, mais quand on aime ce qu'on fait, l'attente est un bonheur. Donc il dit quand on est là et qu'on est témoin de l'indicible, témoin de la surprise, parce que ça se manifeste toujours autrement que ce que vous ne le pensiez, quel bonheur. Le véritable réalisateur du film, c'est la nature elle-même.
C'est exact, parce que moi, Jacques m'a appris beaucoup de choses, hein, ce qu'il voulait. Je sais pas si vous avez vu les films de Jacques Perrin, Le Peuple Migrateur, oui. Microcosmos. C'est pas un vrai documentaire où on parle tout le temps, comme dans les films de la BBC, où on vous décrit les animaux. Donc, ce qu'il nous disait, il voulait que l'image parle d'elle-même. Et pour ça, il fallait être au plus près des animaux et d'avoir le regard et le comportement des animaux de manière à ce que, lorsque tu es dans ton fauteuil en salle de cinéma, tu as l'impression d'être à côté de l'animal. Et ça, c'est, pour moi, il me disait, il faut toujours dégager une émotion dans l'image. Et cette émotion-là, elle se mérite. Et des fois, on a attendu plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de ramener l'image qu'il souhaitait avoir.
Oui. Ça m'a rappelé ce que m'avait dit François Serrano dans l'épisode que j'ai eu le grand bonheur d'enregistrer avec lui, où il disait que c'est aussi le départ de la protection de la nature. Aucun chiffre, aucune phrase, aucune statistique ne dira jamais l'élégance formidable d'une baleine à bosse qui danse. 35 tonnes de légèreté et d'élégance, ça ne s'enferme pas dans les chiffres, ça. Eh bien, c'est ça l'océan. Tu vois, je l'ai appris par cœur ce qu'il m'a dit, parce que je trouvais ça tellement bien dit et tellement vrai. Et je crois que c'était vraiment la démarche de Jacques Perrin aussi. Dès qu'on parle, on dit des bêtises, disait-il, et il faut amener le regard des spectateurs, et on ne peut avoir qu'envie de protéger une fois qu'on a vu toute cette beauté.
Bien sûr, qu'on soit dans une forêt ou qu'on soit sous la mer, la première chose qu'on fait, c'est d'écouter, de regarder, d'observer. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est se faire accepter par la nature et par les animaux. Et c'est pour ça que Jacques nous disait, prenez le temps qu'il faut. Mais ce que je veux, c'est que le téléspectateur soit poisson parmi les poissons et mammifère parmi les mammifères. Et ça, moi, ça m'a permis d'apprendre de nouvelles techniques de prise de vue, de se faire accepter, d'attendre des jours, des fois des semaines. Et puis, hop, en une journée, il est arrivé qu'on fasse toutes les prises de vue qu'on souhaitait faire en 2-3 mois.
Une fois que la confiance était là avec l'animal.
Il y a la confiance d'une part, et puis surtout, c'est qu'on a démontré à l'animal que on s'est fait accepter et qu'on ne lui montre aucune agressivité. Parce qu'en général, l'animal, au début, il est un peu curieux quand il ne nous connaît pas, mais tout de suite, il peut être très craintif parce que finalement, nous, c'est pareil, quand on a un étranger, on est plutôt sur la défensive que de l'accueillir souvent à bras ouverts. Donc la nature, c'est un peu comme ça. Mais quand on voit un jour, deux jours, 10 jours, la même personne, le même comportement, le même respect, c'est le respect aussi qu'il faut. Là, ensuite, on gagne la confiance et ensuite, il y a quelque chose qui se passe parce que finalement, on est curieux, mais les animaux sont aussi curieux que nous et je pense qu'ils veulent aussi en savoir autant de nous que nous.
Et une fois qu'on approche, on peut vraiment approcher. On va parler des cachalots dans un instant, mais moi, ce qui m'a marqué, dans le film Océan, on voit, parce que vous filmez aussi parfois le caméraman qui filme au plus près, ça a valu de très beaux plans sur toi, mais aussi sur, je ne sais pas qui était là, et on voit cette nageoire de baleine à bosse qui passe, mais juste au-dessus de la tête du caméraman, sans le toucher, mais on voit qu'il baisse un peu la tête, vous êtes quand même pas rassuré. Et une autre fois aussi, où c'est la caudale qui passe, mais c'est des centimètres, quelques centimètres à peine de la caméra. Et je sais bien que François Serrano disait que le cachalot ne touchait jamais, c'était incroyable, la précision qu'ils ont. Baleine à bosse, même chose, ça passe aussi tout près en frôlant à peine.
Oui. Alors, les adultes, parce que les jeunes ne maîtrisent pas leur force, ils ne maîtrisent pas encore les distances. Et souvent, il y a des gens qui font pas attention, ils se prennent un revers d'une pectorale ou d'une caudale derrière. Mais c'est relativement rare, parce que le jeune est très très joueur, et puis il découvre la vie, il découvre la nature, il sait pas qui on est dans un milieu. Voilà. Par contre, l'adulte, lui, il maîtrise mieux sa précision. Et effectivement, dans la séquence que tu disais, c'est Didier Noirot qui était là. Et là, il faut surtout pas bouger. Et là, c'est là qu'on voit la précision. Moi, sur les cachalots, je sais qu'ils m'approchent, ils s'arrêtent quand ils veulent. Et s'ils veulent me toucher, ce sont eux qui viennent sur moi. Moi, je me souviens d'Ali, il y a 2 ans, il venait jusqu'à se coller à la caméra parce qu'il était vraiment joueur. Et là, ben, il faut surtout pas montrer aucune agressivité ni quoi que ce soit. Il faut se laisser faire. Quand tu deviens le jouet de l'animal, il faut se laisser accepter et tout se passe très très bien. Et c'est là où on sort de très très belles images.
Pour les cachalots que tu filmes depuis des années, tu en as récolté des superbes. Et justement, cette confiance est là. Ton cachalot préféré, il y a Irène quand même qui compte beaucoup pour toi. T'as des belles anecdotes avec elle. Hein.
Ben moi, Irène a été le premier cachalot que j'ai filmé en 2011. Et je me souviens, j'étais tout seul dans le bleu sur un fond de 1000 mètres. Et quand j'ai vu débouler, j'avais cru voir un sous-marin qui allait foncer sur moi. Et là, je tournais ma caméra, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, je reste, j'attends. Et puis finalement, elle a tourné, c'est quand elle s'est tournée sur le côté que j'ai vu que sa gueule était tordue. Et c'est plus tard qu'avec François, qu'il a prénommé Irène Gueule Tordue. Et chaque année, je la filmais, chaque année de plus en plus près. Et ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et en 2019, lorsqu'elle a eu la petite Lana, elle est venue me voir. C'est mon premier jour. Elle m'a montré qu'elle était enceinte jusqu'aux yeux, un petit peu pour me narguer. Et le lendemain, je ne l'ai pas vue. Là, je me suis dit, oulala, je suis sûr qu'elle va accoucher. Et ça n'a pas raté. Le surlendemain, elle est venue me présenter sa petite fille, Lana, qui était toute trottée, elle était encore toute fripée, avec toutes les rayures, et surtout avec l'ombre médicale, pour me dire, tiens, regarde, je te présente ma progéniture.
Elle est vraiment venue vers toi avec le bébé, c'était vraiment une présentation.
On le voit, elle était accompagnée aussi, je crois que c'était pas Arthur, je sais plus lequel c'était, et elle est venue carrément devant la caméra, elle passe doucement, et elle me montrait à plusieurs passages la petite.
Ça doit être super touchant quand on sent qu'il y a qu'on se reconnaît, qu'il y a ce contact.
Ce qu'il faut savoir, que ces animaux sont complètement sauvages. Donc, quand on voit Irène ou Elliot ou Arthur qui te viennent à côté de toi, qui te reconnaissent, tu te dis c'est quand même quelque chose qui est très très fort parce que c'est-à-dire qu'ils ont une mémoire comme nous. Et surtout qu'ils sont pas rancuniers par rapport à tout ce qu'on leur a fait à leurs grands-parents. Mmh. Et ça, je trouve ça magique parce qu'ils nous ont acceptés comme nous sommes. Tu sais, quand il y a un animal de 30 tonnes qui déboule devant toi et tu sais pas quand il va s'arrêter, puis tu sais qu'il s'arrête à 1 mètre de toi sans bouger, ou tu te dis que il a quand même une sacrée précision et il maîtrise bien son aisance dans l'eau.
Et dans leur intelligence, tu as dit que toi, il y a quelque chose qui t'avait vraiment profondément touché. François Sarano a raconté dans l'épisode d'Eliott qui s'est pris un hameçon dans la gueule et qui est venu demander de l'aide, qu'il a reçu bien évidemment. Mais en disant quelle intelligence. Mais ça va encore plus loin parce que je ne connaissais pas la suite de cette histoire d'Eliott et du hameçon. Est-ce que tu peux la raconter?
Alors ça, c'est une histoire qui montre bien l'intelligence de ces animaux-là. J'étais en fin de saison et c'est mon ami Vitry, qui est mon plongeur naturaliste mauricien qui est sur place, qui m'a appris à connaître et à côtoyer les cachalots. Et j'étais en fin de saison, je venais de rentrer à Marseille, il m'appelle, il me dit « René, il s'est passé quelque chose d'incroyable ». Il m'a dit j'ai enlevé un hameçon de la gueule d'Eliott. J'ai dit bon, comment ça s'est passé? Il m'a dit au début on comprenait pas, il est venu nous voir jusqu'au bateau, on pensait qu'il était agressif, mais pas du tout, et on voyait qu'il ouvrait toujours la gueule, il l'a vu, et quand il a vu l'hameçon, il a décroché l'hameçon. Et là j'étais à la fois content pour Eliott, mais moi j'étais frustré parce qu'à une semaine près j'aurais pu filmer cette séquence là. Et là Hugues, très pragmatique, il me dit René, ne t'inquiète pas. Quand tu reviens l'année prochaine, on va refaire la même séquence. Et moi, je me dis, oui, si ça court toujours, ça m'étonnerait qu'on arrivera à faire ça. Je retourne l'année suivante. Hugues avait gardé l'hameçon dans la main. Elliott vint le voir. Il a refait exactement la même séquence. Ce qu'il y a dans notre film, c'est une parfaite reconstitution. Et du coup, Elliott a parfaitement joué le jeu. Comme s'il m'attendait pour me dire où tu étais l'année dernière. Alors voilà comment ça s'est passé.
C'est fou.
Donc ce qui prouve qu'il a gardé cette intelligence entre Hugues avec l'hameçon et vis-à-vis de moi, parce qu'il sait que je le filme depuis sa naissance.
Et donc Hugues a bien réenfoncé l'hameçon dans les chairs.
Non.
C'est le genre de la maison.
Non, on fait pas de piercing, nous, il y a pas de souci. Donc, il le tenait dans la main, et puis, moi, j'ai fait un petit effet spécial, pour me faire simuler un petit peu du sang, mais il l'a gardé dans la main, et on l'a sorti. Mais déjà, il faut avoir un courage, d'ouvrir la gueule d'un cachalot qui fait, lui, devait faire plus de 15 tonnes et presque 8-9 mètres. Donc du coup, refaire cette séquence-là, et puis l'animal qui ne bouge pas. Je m'étais cru un petit peu chez le dentiste aussi, donc et sans anesthésie. C'est une séquence vraiment inoubliable.
Pour moi, c'est encore plus incroyable que l'histoire d'origine, où effectivement, ça démontre l'intelligence de l'animal qui dit « j'ai un problème, il serait susceptible de m'aider, je vais essayer de leur faire comprendre, et je me laisse faire, même si ça fait mal ». Mais alors, après, comprendre que, oui, il y a l'hameçon, il sait que ça fait mal, il fait confiance qu'on va le replacer tout doucement pour rejouer la scène et jouer le jeu, ça c'est encore plus décoiffant, quoi.
Ah ben bien sûr, moi je défie un acteur qui rejoue une scène sans répétition un an après. C'est impossible.
Oui.
Là, il nous a fait une reconstitution parfaite.
Oui, ouais, c'est fou, hein.
Il avait pris juste quelques tonnes en un an. Donc, il a été un peu plus gros. Mais voilà, ça, c'est un petit détail, mais c'est incroyable. Et Elliot est devenu un petit peu notre mascotte aussi, hein, parce que chaque année, il venait jouer, et puis il était avec son demi-frère Tache Blanche. Et il y a que depuis l'année dernière où on voit qu'il commence à vraiment être le mature. Il est devenu un peu plus distant. Et il a changé son son. Maintenant, il prend le son du glang, du mâle. Oui. Et cette année, j'espère là le revoir en... Je sais qu'il est encore là cette année. Et là, il est prêt à partir sur les eaux antarctiques pour justement commencer à vivre sa vie d'adulte, quoi.
Oui, c'est vrai, puisque les mâles ne restent pas avec le clan. Donc, ils restent immatures très très longtemps, mais là, ça y est, il est prêt à prendre son envol alors.
Ah ben bien sûr, parce que les scientifiques disaient c'était 6 ans ou 7 ans, là il va avoir bientôt 10 ans, donc du coup il est encore là, donc on attend de savoir quand est-ce qu'il va partir, peut-être qu'il partira pas, on sait pas.
Ça ne passera pas la meilleure nouvelle, quoique ça te permettra peut-être de filmer plus facilement, puisque tu disais que parfois il s'interposait pendant que tu filmais, parce que il est un peu jaloux, il aime bien que ce soit lui qu'on filme.
Oui, alors ça, c'est Ali.
Ah, pardon, c'est Ali
qui était... Non, c'est le petit Ali qui a 3 ans maintenant, qui lui, chaque fois, voit la caméra, c'est la star, il fait demi-tour, il se met devant la caméra. Lui, il a compris. Il a compris que je venais pour filmer, et il est arrivé jusqu'à se mettre devant la caméra quand je filmais un autre cachalot, et il est allé jusqu'à me tirer la pâme avec sa gueule pour me dire, attention, la vedette, c'est moi, c'est pas
C'est fou, hein.
Et à chaque fois, il m'écolocalise, il me scanne, et ses bruits, à chaque fois, me transpercent la cage thoracique, et il me fait bien comprendre que c'était ça. Alors, quand il avait 1 an, 2 ans, il s'arrêtait à la caméra, et là, la dernière fois, il venait carrément toucher, il me repoussait avec la caméra. Et là, je me suis dit, oulala, il faut faire attention, parce que il prend de la force, et si jamais il fait ça avec d'autres personnes, ça peut mal se finir si une personne panique ou quoi que ce soit.
C'est vrai que ça, bon, il reste sauvage, quoi.
Et ils peuvent aussi devenir un peu dangereux, parce que on sait jamais le comportement d'un animal, il suffit qu'une fois, un peu comme nous, on est mal luné, ou ne serait-ce qu'en jouant, souvent avec des animaux, le problème, les gens se familiarisent avec un animal sauvage, et puis ce qui se passe, c'est que l'animal va aller un peu plus loin, l'humain, lui, panique, donc du coup, il devient réactif, et l'animal, lui, ben, il comprend pas, qu'est-ce qu'il fait, ben, il se met sur la défensive, et soit il mord, moi je me souviens sur une pieuvre géante, il est une pieuvre géante qui a l'habitude de la câliner, le gars a eu peur parce que il a décollé son détendeur, du coup, il s'est débattu, la pieuvre a eu peur, il a encerclé le plongeur, il a failli mourir étouffé parce que justement, il y a eu panique des deux côtés, quoi, et c'est là où il faut justement se maîtriser, parce que j'ai dit toujours que la panique est un échappatoire, mais
La peur est un échappatoire, mais la panique...
Et la mort assurée. La peur est un échappatoire et la panique est la...
Tu vois, je le connais, j'ai bien préparé, hein.
Très
bien. Je t'ai déjà entendu le dire ailleurs. Ouais. Non, c'est vrai que la panique, c'est toujours la dernière chose à faire avec un animal. Hein.
Ah, tout à fait, tout à fait.
« Ça fait quoi des clics de cachalot qui vous transpercent? Parce que tu dis souvent, c'est, on le ressent, ça transperce la cage thoracique. Mais ça fait quoi?
Ça crée des vibrations. Mm-hmm. Comme là, on l'a actuellement avec les chants des baleines, là, quand on est au-dessus, ça te fait vibrer, tu te sens qu'il se passe quelque chose qui te pénètre à l'intérieur sur tes poumons, qui va dans ton cœur. Mm-hmm. C'est quelque chose que tu ne ressens nulle part ailleurs. Et là, se faire ces vibrations qui partent dans les oreilles, qui se répercutent dans ta cage thoracique, qui fait un peu caisse de résonance, et là, tu te dis, c'est un peu comme s'il y avait une communion, quoi. Donc, sans savoir chercher ce qui se passe, on sait très bien que c'est pas à nous que ça s'adresse. Mais le fait de là, de se dire, quelle puissance majestueuse à ces animaux-là. Alors, soit c'est un chant par une baleine, soit c'est les clics par les codas des cachalots.
Oui, la baleine à bosse est très mélodieuse.
Ah, oui.
Et dans son approche, est-ce qu'elle se laisse approcher aussi facilement que le cachalot?
Non, ça n'a rien à voir.
Ouais.
En fait, on arrive, nous, à approcher et à filmer les baleines quand ils ont les petits. Et c'est par les petits qu'on arrive à les approcher.
C'est marrant, parce que souvent, c'est là qu'en général, les mères sont beaucoup plus réactives dans la nature.
Ben oui, mais là, ce qui se passe, c'est que les mères sont fatiguées parce qu'elles ont fait près de 20 000 km. En plus, elles vont pas manger pendant plusieurs mois. Il faut savoir qu'un bébé baleine prend environ entre 60 et 80 kilos par jour.
Ouf.
Donc ça veut dire qu'il faut allaiter et la mère ne mange pas entre-temps. Donc,
pourquoi est-ce qu'elle ne mange pas?
Parce qu'ils n'ont pas de krill. En Polynésie, les eaux chaudes, ils n'ont pas la nourriture suffisamment riche.
D'accord.
Et du coup, elles jeûnent pendant plusieurs mois et elles se mettent dans des endroits pas profonds justement pour éduquer leur enfant qui doivent respirer beaucoup plus rapidement. Ensuite, la mère lui apprend à sauter, lui apprend à faire de longues apnées pour la préparer à partir quelques mois après dans l'Antarctique.
Ils viennent chercher les eaux chaudes parce que ça, c'est plus facile pour l'isothermie du bébé.
Exactement.
Ah,
ouais. Les eaux chaudes sont là, elles sont claires, et puis c'est surtout aussi qu'il y a des eaux pas profondes, et ils savent où ils vont, et l'année dernière, on a eu un bébé qui était là, qui est revenu cette année, tout seul, accompagné, parce qu'il faut savoir, c'est contrairement au cachalot, le bébé va rester pendant 7-8 ans où le mâle va partir. Que les baleines à bosse, les bébés restent 2-3 ans et puis ensuite ils sont autonomes.
D'accord. Ah ouais, c'est vraiment très 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 différent.
C'est deux mondes à part. Et puis au niveau aussi du lien maman-bébé, grâce à mes images, on a pu constater qu'un bébé cachalot tétait sur sa maman, mais il avait des nounous. Chose que n'a pas les baleines à bosse. Enfin, en tous les cas, pour moi, on n'a jamais vu de bébé tété sur des nounous baleines à bosse.
Oui, ça se passe beaucoup plus en clan chez les cachalots alors.
Ah ben oui, parce qu'ils sont en groupe, et les enfants jouent ensemble, ils socialisent. Chez nous, les baleines à bosse, on a le bébé, le mère, puis après on a ce qu'on appelle les escortes, c'est un ou deux mâles qui essaient justement de se raccoupler, parce qu'apparemment on pense qu'ils peuvent se raccoupler très vite dès que les mamans ont accouché.
Mm-hmm.
Et donc du coup, ben il est arrivé même des ces fois où les mâles poussaient, rejetaient le petit pour pouvoir essayer de forcer la mère à la séduction, quoi. Donc, les comportements sont totalement différents.
Complètement, oui. Tu as justement filmé une très belle scène d'allaitement, je ne sais pas, d'ailleurs, c'était pas sur une nounou, de très très près.
Oui.
Et c'est chouette parce qu'on te voit, on voit le film qui est formidable, mais il y a aussi des séquences où on te voit filmer cette séquence, quelqu'un d'autre qui filme derrière toi.
Oui, c'est Axel, c'est mon plongeur de sécurité qui est là quand il sait que je pars longtemps au fond. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, et c'est Delphine, il me semble que c'est Delphine, qui m'a laissé s'approcher, et on voit le bébé téter, on voit le téton qui sort, puis le lait qui ressort. Là, je me dis, je leur ai dit merci de m'avoir permis de filmer leur intimité, et en m'acceptant, sans bouger, en faisant comme si j'étais pas là, ou si j'étais leur invité, quoi.
Je t'ai entendu dire qu'il te manquait, entre guillemets, encore avec les cachalots, une scène d'accouplement et de mise bas. Tu as eu une occasion depuis?
Non, toujours pas. Ça fait 10 ans que je suis derrière. Je l'ai raté toujours. Ben, j'ai raté encore Irène Gueule Tordue, il y a 2 ans.
Oui.
Après, c'est des questions de moyens. Si on veut les avoir, ben, il faut rester derrière. Il faut plus les lâcher, quoi.
Mmh.
Mais le problème, c'est que on ne sait pas à quel moment. Je ne connais pas. Si tu connais un gynéco spécialisé dans les cachalots, tu me
l'invites. Non, je ne connais pas là.
Voilà. Et là, ben là, c'est le coup de poker. Hein. À ma connaissance, il y a eu deux personnes, deux photographes qui ont réussi à filmer des accouchements. Et la technique, d'après mes rapports, sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que le clan se met autour de la maman, qui la protège. Et puis ensuite, quand le petit naît, ben, tout le monde reste ensemble et font une sorte d'arc de cercle pour protéger la maman qui après est fatiguée. Et ensuite, le bébé va sur les autres, sur les nounous tout de suite.
Oui, c'est vraiment oui, une histoire de clan.
C'est toujours le dilemme avec les épisodes plus longs. On a enregistré plus de 2 heures avec René. Il faut dire que c'était vraiment sympa, et puis il a tellement de choses à dire. Après sélection, il me restait encore 80 minutes, donc on va se la jouer affaire à suivre, et je vous propose de retrouver René Euzet la semaine prochaine pour la suite. On va vous parler de ses tournages avec les requins, de son face-à-face avec un ours polaire sous l'eau. On vous parlera aussi plus longuement des baleines à bosse que vous entendez pour le moment, de son association Un océan de vie. René était d'ailleurs avec ses 2 parrains de l'association à Moréa lors de l'enregistrement. 2 champions du monde, l'un de foot, l'autre d'apnée, Bixente Lizarazu et Guillaume Neri. Alors, à tout bientôt.